Laudetur Jesus Christus.
Le monde a les yeux rivés sur le Vatican. 133 cardinaux rentreront en conclave dans la chapelle Sixtine cet après-midi. L'un d'eux en ressortira pape. Cette journée décisive pour l'Église commencera d'ici 1h30 avec la messe pour l'élection du souverain pontife à Saint-Pierre. Les contours de cette célébration liturgique en début de ce journal. Au cours des 12 congrégations générales des derniers jours, le Sacré Collège a esquissé le portrait du futur pontife, celui d'un guide spirituel offrant miséricorde et espérance afin de panser les blessés sur de l'humanité, le compte-rendu de la dernière réunion à suivre. Ces cardinaux qui ont conscience de participer à la marche de l'histoire, le cardinal non-électeur Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar, nous confiera son souvenir du conclave de 2013. Et puis le choix des électeurs guidé par l'Esprit Saint dans notre dossier ce matin, éclairage sur son rôle et son action dans le processus de décision du futur pape, entretien avec le théologien jésuite Christophe Théobald.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. La ville éternelle a rendez-vous avec l'histoire. Les 133 cardinaux électeurs se rendront cet après-midi en procession dans la chapelle Sixtine, où ils seront coupés du monde le temps d'élire un successeur de Pierre. Une élection sans candidat conduite par l'Esprit Saint, invoquée d'ailleurs lors de l'entrée en conclave. Bonjour Xavier Sartre.
Bonjour Alexandra.
Ce moment liturgique déterminant pour l'Église commencera en réalité dès 10h ce matin.
Oui, et c'est une longue séquence qui va débuter à 10h donc dans la basilique Saint-Pierre avec la messe pour l'élection du souverain pontife, le seul événement finalement public du conclave puisque les fidèles sont invités à y participer pour y prier l'Esprit Saint afin qu'il inspire au mieux les cardinaux dans leur choix du futur pape. Après cela, les électeurs rejoindront la maison Sainte-Marthe où la plupart d'entre eux se sont installés dès hier soir et où ils resteront jusqu'à la fin du conclave. Ils y prendront leur déjeuner avant de rejoindre à partir de 15h45 en procession et en habit de cœur le palais apostolique, direction le premier étage et la chapelle Pauline, d'où ils formeront la procession qui se dirigera vers la chapelle Sixtine au son de la litanie des saints.
Et c'est alors, Xavier, que commencera véritablement le conclave.
Alors, un peu de patience, les cardinaux, une fois installés à leur place, entonneront le Veni Creator, un autre chant symbolique du conclave. Ils prêteront ensuite serment, d'abord collectivement, puis l'un après l'autre. C'est alors que le maître des célébrations liturgiques pontificales prononcera le fameux extra omnes, tout le monde dehors en bon français, mais il restera encore un peu le temps de la méditation que tiendra le cardinal Cantalamessa, non électeur, ancien prédicateur de la maison pontificale. Méditation sur la tâche solennelle et importante que devront accomplir les 133 électeurs. À l'issue de cette prise de parole, les cardinaux électeurs resteront seuls et seront enfermés à clé dans la chapelle Sixtine. À partir de là, ce qui se passera sera du domaine du secret. À l'extérieur, on ne saura le résultat de ce premier scrutin que quand la fumée sortira de la cheminée. Noire en cas d'échec, blanche en cas d'élection. Réponse ce soir aux alentours de 19h.
Merci Xavier Sartre. Ce conclave qui commence donc dès la messe pro eligendo pontificiae pour l'élection du souverain pontife. Si on parle d'élection, cet événement n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas non plus un simple acte juridique. C'est d'abord et avant tout une célébration liturgique. C'est ce que nous explique le père Cédric Burguin, vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris.
On célèbre le conclave comme on célèbre un synode. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est une célébration en tant que telle, et donc une célébration de prière, où les cardinaux ensemble vont se laisser inspirer par l'Esprit Saint pour discerner quel est le meilleur d'entre eux, ou d'ailleurs un autre, puisqu'ils ne sont pas tenus d'élire quelqu'un de leur rang, qui serait le plus à même de diriger l'Église catholique. Mais par contre, évidemment que cette célébration liturgique de prière, elle a aussi ses codes et une forme juridique, parce que l'histoire du conclave nous montre bien que toutes les questions et difficultés qui se sont rencontrées ont nécessité de la part des papes de réglementer ce conclave pour qu'il soit sûr, qu'il soit sécurisé, que l'élection ne fasse pas de doute, que la validité de l'élection ne fasse pas de doute, qu'elle ne puisse pas être contestée et que le pontife romain soit le plus légitime possible après l'élection.
Le père Burguin du diocèse de Metz, l'élection dont la durée reste la grande inconnue, mais depuis le début du XXe siècle, aucun conclave n'a duré plus de 4 jours. Ce conclave, le 26e à se dérouler dans la chapelle Sixtine, se tient après de nombreux temps d'échanges, formels et informels. Le Sacré Collège s'est réuni 12 fois en congrégation générale, des réunions essentielles pour permettre aux cardinaux des quatre coins du monde à mieux se connaître et à réfléchir ensemble aux défis qui attendent l'Église de demain. La dernière réunion a eu lieu hier matin, au cours de 26 interventions, divers thèmes ont été abordés, allant des atteintes à la liberté religieuse au changement climatique, en passant par l'unité des chrétiens, chaque région du monde arrivant avec ses enjeux et ses espoirs, le compte-rendu de Romilda Ferrotto.
Lutte contre les abus, transparence économique, réorganisation de la curie, synodalité ou encore engagement pour la paix et la protection de l'environnement, le pape François a engagé des réformes. Elles ont besoin d'être complétées. Les chantiers sont nombreux, les défis et les enjeux divers. Ils ont été ouvertement évoqués au fil des interventions qui ont rythmé les 12 rencontres destinées à préparer le conclave. C'est sans détour que la question des lignes de fracture dans l'Église a été évoquée, y compris celles qui existent au sein même du Collège des cardinaux. Il faudrait, selon certains, donner plus de sens aux réunions du Collège cardinalis à l'occasion des consistoires. La question cruciale du pouvoir du pontife romain n'a pas été ignorée, elle non plus. Le code de droit Callière ont été cités plus d'une fois. Tous ceux qui l'avaient demandé ont pu désormais prendre la parole. L'anneau du pécheur et le sceau du pape François ont été solennellement rendus inutilisables, biffés aux ciseaux. L'Église catholique va désormais retenir son souffle dans l'attente de la fumée blanche. L'élu devra être un homme de communion, a-t-on souhaité, un pape pasteur, capable d'incarner le visage d'une église samaritaine. En ces temps marqués par les guerres, la violence et de fortes polarisations, le besoin d'un guide spirituel offrant miséricorde et espérance est fortement ressenti. Une figure de consensus qui sache faire la synthèse.
Romilda Ferrotto. Et le contexte international s'est invité dans les débats des cardinaux. La dernière congrégation s'est ainsi achevée par la lecture d'une déclaration officielle, un appel aux parties impliquées dans les différents conflits internationaux. Les cardinaux invoquent un cessez-le-feu permanent et l'ouverture de négociations en vue d'une paix juste et durable, selon le respect de la dignité humaine et du bien commun. Ces congrégations auxquelles ont participé les 117 cardinaux non électeurs, âgés de plus de 80 ans, ils ne passeront pas la porte de la chapelle Sixtine ce mercredi, mais tous gardent un souvenir indélébile du dernier conclave de 2013 et de l'élection du pape François. Le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal, nous a confié son expérience. On l'écoute.
La chapelle Sixtine est vraiment merveilleuse au niveau de tous ceux qui ont les peintures qui sont là. Et également aussi, on est ému parce qu'on sait qu'avant nous, d'autres cardinaux ont élu les papes précédent. Étant donné que je participais à la première fois au conclave, il y a un temps de découverte, découvrir les lieux, les cérémonies, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Heureusement, je n'étais pas parmi les premiers, donc j'ai vu comment ça se passait pour ceux qui m'ont précédé. Et quand mon tour est venu, donc avec émotion, effectivement, prononcer ce serment à la main sur la Bible, qui nous donne conscience de la gravité des votes que nous allons faire, nous les cardinaux électeurs. Conscience de cette gravité, conscience aussi, en quelque sorte, notre indignité pour pouvoir donner à l'Église, au nom de Jésus-Christ, et même par Jésus-Christ, plutôt nous faire les instruments vivants par lesquels le Christ choisit son nouveau pasteur. Et évidemment, la prière, mais cette conscience vraiment de la gravité de ce qui nous attend, et prier pour que le Seigneur nous aussi nous éclaire afin que nous puissions accomplir le geste par lequel il va désigner un nouveau pasteur à son Église.
Le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar, interrogé par Françoise Niamien. Avant de passer à notre dossier, un mot pour vous parler de notre programmation des prochains jours. Des commentaires en langue française et en direct seront assurés sur nos ondes à partir de 10h ce matin, allant de la messe pro Eligendo Pontifice à l'Extra Omnes. Puis dès ce mercredi soir, Radio Vatican vous proposera des émissions spéciales conclave jusqu'à ce qu'une fumée s'élève dans le ciel de Saint-Pierre. En cas de fumée blanche, nous découvrirons ensemble l'identité du 267e pape. Tout cela est à suivre sur vos antennes habituelles, mais aussi sur vaticannews.va et sur nos pages YouTube ou Facebook. Et Des eaux de la création jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, l'Esprit Saint infuse toutes les écritures et se retrouve dans les grandes étapes de l'histoire du salut. C'est aussi le protagoniste indéniable, du conclave par les diverses invocations dont il fait l'objet, tout comme de la synodalité que l'Église catholique romaine revalorise depuis plus de 3 ans. En ce jour de début de conclave, le 76e de l'histoire, le 16e depuis Vatican II et le 3e de notre siècle, celui-ci nous rappelle l'œuvre centrale de la troisième personne de la Trinité dans le cadre grandiose de la chapelle Sixtine. Arrêtons-nous ce matin sur son rôle, sa méthode, son action dans ces grands moments d'Église comme celui qui s'ouvre aujourd'hui. Le théologien jésuite Christophe Théobald fut l'un des experts du synode sur la synodalité. Il examine pour nous l'action de l'Esprit toujours surprenante, déjouant les certitudes humaines.
Implorer sa présence, c'est déjà se rendre disponible à ce qu'il peut suggérer aux uns et aux autres. L'Esprit Saint est celui qui crée la liberté des cœurs. C'est peut-être la toute première chose qu'on dit d'ailleurs dans cette célèbre prière à l'Esprit Saint, qui est la prière synodale, ce qu'on appelle la Adsumus Sanctus Spiritus. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permet pas que nous provoquions le désordre, fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.
L'Esprit Saint a inspiré les débats du synode. Les cardinaux sont-ils mieux formés à son écoute? Que change l'élection d'un pape finalement après 3 ans de processus synodal?
Une bonne partie des cardinaux ont participé au synode. Au moment de la deuxième session, en octobre 2024, on disait de temps à autre, quand on pense que le successeur du pape François est sans doute ici déjà dans la salle, il y a quelque chose de décisif qui s'est passé quand même à travers les synodes. Et finalement, le synode sur la synodalité, qui est une sorte de nouvelle pratique, je pense un peu une nouvelle sensibilité aux fruits inattendus de la conversation spirituelle. Alors que le synode, ce n'est pas un terrain de débat uniquement, de discussion, d'opposition, d'arguments, mais au fond une sorte de libération intérieure de chacun pour mieux entendre ce que les autres ont à dire. Et c'est de cela que progressivement a émergé ce qu'on appelle un consensus. Et je pense que ça ne peut pas ne pas refluer sur la pratique du conclave, qui est évidemment très régulée, hein, mais qui ouvre en même temps un espace réel au discernement.
Quelle est la méthode d'action de l'Esprit Saint, en l'occurrence en cas d'élection papale?
Le travail de l'Esprit Saint est permanent et discret, parce qu'il suscite la liberté de conversion de chacun des cardinaux. Et en même temps, il agit entre eux. C'est le lien, comme dit saint Augustin. Le vinculum, le lien, c'est le créateur de liens. De toute façon, ça sera miraculeux d'une manière ou d'une autre. Même si les cardinaux n'arrivent pas à une unanimité, mais ils arrivent à déterminer quelqu'un. Et c'est là où le dispositif, où le modus procedendi, la manière de procéder est décisif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de tours d'élection chaque jour, c'est limité. Ce qui laisse le temps à la prière, à la disposition intérieure, pour ensuite, ça va se rétrécir d'une certaine manière. Si on aura plusieurs possibles, ça va se réduire au fur et à mesure. Et donc c'est là où le travail de l'esprit, à mon avis, est le plus lisse.
D'aucuns rabaissent la tenue d'un conclave à son niveau politique, mondain, humain. Or, il n'est pas un parlement. Comment parvenir à rendre intelligible ce primat de l'Esprit-Saint en la matière?
Souvent, l'opinion publique n'a que ce schéma à la disposition du vainqueur et du vaincu, du combat entre courants, et donc on réduit le conclave à un parlement. Il ne s'agit pas du tout de cela, ce qui ne signifie pas que des tensions de ce type sont absentes. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, évidemment. Et donc le travail de l'Esprit-Saint, discret, il suscite la conversion des uns et des autres vers l'unique question, le bien de l'Église universelle. Et ça, c'est un travail énorme, je dirais, qui relève de l'esprit et qui fait qu'à un moment donné aussi, qui donne le sentiment de joie ou de consolation, qu'on est dans la bonne direction, dans la bonne orientation. Ce n'est pas de l'ordre du combat. Et on n'est pas, comment dire, à l'heure actuelle, me semble-t-il, devant des partis qu'on a parfois connus, n'est-ce pas? Surtout peut-être après Jean-Paul II, c'est-à-dire des gens qui défendaient une interprétation du Concile Vatican II, ou ceci ou cela, peu importe. On n'est pas dans cette situation-là.
Interrogé par Delphine Allaire, le théologien jésuite Christophe Théobald était ce matin l'invité de Radio Vatican. c'est la fin de ce journal. Prochain journal consacré entièrement au conclave, ce sera à 13h heure de Rome. Et puis d'ici là, dès 10h, vous pouvez suivre sur nos ondes la messe Pro Eligendo Pontifice en français, en direct, commentée en français. Belle matinée.